Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David.
Il y a un siècle, le 11 novembre 1920, était transporté le corps du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, même si celui-ci n'y sera inhumé que le 28 janvier 1921. On va ce matin, sur Sud Radio, vous raconter l'histoire du soldat inconnu en compagnie de Jean-Yves Le Naour, historien, auteur de La Gloire et l'Oubli, Maurice Genevoix et Henri Barbus, témoins de la Grande Guerre, publié chez Michalon, et Le Soldat Inconnu, la guerre, la mort, la mémoire, publié chez Gallimard. Jean-Yves Le Naour, bonjour.
Bonjour.
L'idée du soldat inconnu est née 2 ans plus tôt, puisque le 19 novembre 1918, le député de Eure-et-Loir Maurice Monoury fait une proposition de loi demandant l'inhumation au Panthéon d'un livre d'or recensant les noms de tous les morts de la Grande Guerre. Mais la Chambre des députés adopte finalement le 12 septembre 1919 la proposition d'inhumer, je cite, « un déshérité de la mort ». On ne parlait pas de soldat inconnu alors.
On parlait pas de soldats inconnus. En fait, comme vous venez de le rappeler, dans la proposition de loi de Maurice Monoury, il y a quand même cette idée d'un poilu anonyme. Et vous partez effectivement de novembre 1918, quelques jours après l'armistice, mais on pourrait remonter encore auparavant, puisqu'en novembre 1916, le 20 novembre plus exactement, le président du Souvenir français, à Rennes, dans un cimetière, alors, lors d'une cérémonie funéraire, émet cette idée qu'il faudrait qu'il y ait un petit soldat, le plus humble des soldats, qui un jour entre au Panthéon pour symboliser le sacrifice de tous. Bon, il est président du Souvenir français, il faut attendre effectivement, vous l'avez dit, novembre 18, qu'un député fasse une proposition de loi. Septembre 19, une deuxième proposition de loi. Mais ce projet d'un soldat inconnu, il piétine parce que il y a plusieurs projets pour honorer les morts. Et il y a une sorte de concurrence de projets. Depuis 1915, on parle de cette question, comment honorer les morts? Est-ce qu'on va faire un grand monument à Paris? Le conseil municipal de Paris, par exemple, envisage de faire, vous savez, dans le prolongement des Champs-Élysées et de l'Arc de Triomphe, qui commémore les victoires de la Révolution et de l'Empire, eh bien dans le prolongement, un immense Arc de Triomphe pour commémorer la victoire de 14-18. Et ce monument, on envisage de le faire au rond-point de la Défense. Vous voyez, c'est là où on a fait l'arche des droits de l'homme.
Ah oui.
C'est quand même
alors justement,
un petit clin d'œil assez.
Le gouvernement a d'autres projets à l'époque. Profiter du deuxième anniversaire de l'armistice pour célébrer le cinquantenaire de la Troisième République et porter le cœur de Gambetta au Panthéon afin de donner une continuité aux deux conflits, 1870 perdu et 14-18 gagné, pour rappeler la victoire de la France sur l'Allemagne. Les deux projets, celui de l'exécutif et celui de la Chambre, alimentent un clivage politique d'autant plus perceptible que les tensions sont fortes entre le pouvoir décidé à célébrer la victoire de son régime et les anciens combattants blessés ou traumatisés.
Alors, c'est vrai qu'effectivement, la République a été proclamée le 4 juin 1870. Donc, on aurait dû la fêter le 4 septembre.
Le 4 septembre
1870. Et donc, on aurait dû la fêter le 4 septembre 1920. Mais on l'a repoussé au 11 novembre pour, si vous voulez, fermer cette parenthèse cette République qui est née dans la défaite, qui est née dans une période particulièrement éprouvante. Et 1918, le retour de l'Alsace-Lorraine, de ces provinces qui justement ont été ravis à la France en 1870-71. Donc il fallait faire combiner la célébration de la République et le 11 novembre. Mais les anciens combattants, comme venez de le rappeler, ils n'ont pas apprécié cela. Ils n'ont pas apprécié cela, d'autant plus qu'à partir de la mi-octobre, 20 octobre, on apprend que le Royaume-Uni a décidé d'inhumer un Tommy inconnu, un soldat inconnu, dans l'abbaye de Westminster, c'est-à-dire aux côtés des rois et des reines, donc le lieu le plus prestigieux de la monarchie britannique. Et donc les Français, et notamment les anciens combattants, sont un peu suffoqués en disant « mais enfin, c'est nous qui avons eu l'idée les premiers, et puis ce sont les Britanniques qui vont le faire, et nous, on ne va rien faire ». Donc il y a des pressions très fortes sur le gouvernement. André Pézan, un député qui avait déposé une proposition de loi en septembre 1919 sur un soldat inconnu, rencontre à 2 reprises avec une délégation, des généraux, etc., des anciens combattants. Il rencontre à 2 reprises le président du conseil de l'époque, Georges Legge, et pour dire qu'il faudrait quand même coupler avec le cœur de Gambetta, parce qu'on propose d'inhumer le cœur de Gambetta pour célébrer la République. On propose de coupler l'inhumation du cœur de Gambetta au Panthéon avec l'inhumation d'un soldat inconnu. Mais le Georges Lec dit, écoutez, ce n'est pas possible, c'est trop tard. Nous sommes là, la dernière fois qu'ils se rencontrent, c'est le 1er novembre. Et vous voyez, c'est dans 10 jours. Et puis les chambres sont en vacances, c'est les vacances parlementaires. Les chambres reviennent le 8 novembre. Donc ce sera trop tard, ce sera trop tard. Votre idée est généreuse, je la retiens, nous le ferons l'année prochaine. Mais là, ce n'est pas possible, nous n'avons pas le temps.
Et finalement, le 8 novembre... À la demande des anciens combattants, la Chambre propose l'Arc de Triomphe, réservant le Panthéon à Gambetta. La loi est adoptée à l'unanimité par la Chambre des députés et le Sénat. Et à partir de là, c'est André Maginot, ministre des Pensions et grand invalide de guerre lui-même, qui dirige la cérémonie du soldat inhumé. Et le lieu est choisi, un lieu mythique, la citadelle de Verdun.
Oui, on a ramené... Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, le 1er novembre, le gouvernement disait non. Et le 2 novembre, il a fini par céder. Et le 8 novembre, les chambres se sont réunies. Elles ont voté, comme vous l'avez dit, à l'unanimité. Donc, il faut effectivement un vote de la Chambre, débloquer des crédits. Alors, on a ramené 9 corps dans la citadelle de Verdun, exhumés de 9 champs de bataille différents. Mais il y avait un doute sur la nationalité d'un corps. On a préféré donc le mettre à part, parce qu'on ne voulait quand même pas mettre un Allemand oui. ou un Américain sous l'Arc de Triomphe, quand même. Au Panthéon, à l'époque on pensait au Panthéon, le choix a été celui de l'Arc de Triomphe, parce que l'Arc de Triomphe est un lieu unique, voyez, le poilu anonyme est un symbole, il ne peut pas entrer au Panthéon à côté de gloire terrestre. Au Panthéon on y met les grands hommes, les grandes femmes maintenant, envers lesquels la patrie est reconnaissante, mais le soldat inconnu c'est pas un homme, c'est une idée, c'est le sacrifice de la nation, ce sont tous les morts qui sont tombés pour que la nation vive, donc il lui fallait un lieu unique et un lieu autour duquel, sur lequel on peut se réunir et se recueillir à n'importe quel jour, n'importe quelle heure pardon, du jour ou de la nuit, alors que le Panthéon est un lieu fermé, hein, il y a des heures d'ouverture. Donc c'était pas tout à fait... Le Panthéon a été éliminé au profit de l'Arc de Triomphe.
Et le 10 novembre, André Maginot lui tend un bouquet d'œillets à un deuxième classe du 132e régiment d'infanterie, Auguste Thin, qui s'était engagé à Lisieux le 3 janvier 18, à 18 ans. Et il choisit le cercueil de manière surprenante. Ça a un rapport avec le numéro de son régiment.
C'est ça. C'est ça. Il était du 132e. Il s'est posé la question, quand on l'a désigné, comment je vais faire, sur quel cercueil je vais m'arrêter. Il y a 8 cercueils qui sont rassemblés, puisque je vous ai dit qu'on en allait miner un. Et il a regardé le numéro de son régiment, 132, et il a ajouté les numéros 1 plus 3 plus 2, ça fait 6. Donc il a fait un tour d'honneur autour des cercueils pour honorer les morts. Et puis ensuite, au deuxième tour, il s'est arrêté sur le 6e cercueil. Il a déposé son bouquet de fleurs que lui avait remis André Maginot. Et c'est ce cercueil qui a été choisi, qui est sorti de la citadelle, qu'on a conduit à la gare et qui, par train spécial, accompagné par une famille fictive des veuves et par le ministre André Maginot, eh bien, a été conduit place d'Enfer-Rochereau à Paris.
Où encore un clin d'œil à la défaite de 70 d'Enfer-Rochereau.
Exactement, puisque d'Enfer-Rochereau, c'est celui qui a combattu à Belfort. Et Belfort n'est pas tombé. Donc effectivement, le cœur de Gambetta, qui était l'artisan de la défense nationale en 1870, voilà, on le rassemble, on rassemble le soldat inconnu et Gambetta sur la place d'Enfer-Rochereau. Et le 11 novembre au matin, par un froid de 11 novembre et un brouillard qui ne s'est pas levé de la matinée, le cortège s'ébranle avec le glas, toutes les églises de Paris qui sonnent le glas. Faut imaginer, et puis le silence recueilli des centaines de milliers de Parisiens sur le parcours, il y a quelque chose de vraiment très impressionnant.
Alors justement, le cercueil fait son entrée solennelle sous l'Arc de Triomphe le 11 novembre 1920, mais est mis en terre que le 28 janvier 1921 en présence des autorités civiles et militaires. 3 maréchaux, Foch, Joffre, Pétain, étaient également présents, le ministre belge des Affaires étrangères, Henri Jaspard, le premier ministre britannique, David Lloyd George, et un représentant du Portugal.
Alors, c'est vrai que ça peut paraître surprenant qu'on n'ait pas inhumé le soldat inconnu le 11 novembre, mais comme on l'a rappelé tout à l'heure, la décision a été prise par les députés le 8 novembre, hein, le gouvernement le 2 les députés le 8 novembre. Ce qui fait qu'on n'a pas eu le temps de creuser la tombe. On est dans l'improvisation totale. Alors, ce qui fait qu'on va installer le cercueil dans d'un pilier de l'Arc de Triomphe, dans une salle qui s'appelle aujourd'hui la salle des Palmes, en référence au soldat inconnu qui a reçu beaucoup de palmes, de cadeaux, si vous voulez, honorifiques d'un certain nombre d'États, d'associations. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, c'est dans cette salle des palmes qu'est organisée une exposition qui raconte l'histoire du centenaire du soldat inconnu, de l'inhumation du soldat inconnu. Et malheureusement, elle devait être inaugurée le 11 novembre. Bon, avec le confinement, et on ne peut pas y accéder. Mais cette exposition se prolongera jusqu'en mars prochain. Donc, tous vos éditeurs pourront venir dans cette exposition. Alors, il y avait aussi des projets concurrents. Creuser une tombe ou bien peut-être l'installer dans un pilier, tout simplement, avec une plaque. Ici repose le soldat inconnu. Mais on a préféré le fin novembre, il y a eu le conseil de ministres qui s'est réuni, a choisi l'inhumation par une tombe. On a creusé une tombe et le 28 janvier 1921, il y a cette grande manifestation. Avec un discours du ministre de la guerre, Louis Barthou, qui avait perdu son fils à la guerre et qui lève les bras au ciel quand le cercueil descend dans la terre en criant « Vive la France !» Et là, on voit bien ce qu'est le soldat inconnu. Vous savez, comme le « Vive le roi, le roi est mort, vive le roi », bien la France est morte. 1,5 million de ses enfants sont morts et pourtant, la France vit, elle est toujours debout. Ce soldat inconnu, c'est le sacrifice de la nation, mais c'est une sorte de Christ patriotique, celui qui est mort, qui s'est sacrifié pour que le pays vive.
Et pour conclure, je rappellerai que je l'ai appris en préparant l'émission, les 7 autres dépouilles non choisies sur les 8 cercueils reposent au cimetière militaire du Faubourg Pavé, près de Verdun, dans le carré des 7 inconnus. Je ne savais même pas que ça existait. Merci beaucoup Jean-Yves Le Naour, auteur de La gloire et l'oubli, Maurice Genevoix et Henri Barbus, publié chez Michalon, et Le soldat inconnu, la guerre, la mort, la mémoire, publié chez Gallimard.